Ceux qui habitent en France liront ce Shabbat la parashat Béar, et ceux qui habitent en Israël liront la parashat Bechukotai. Mais cet audio rassemble des enseignements qui sont relatifs un peu à tout ce que le Rabbi nous enseigne dans le Dvar Malchut. Et on pourrait résumer les choses en citant ce verset qui est connu de tous, dans lequel il est dit « De ma chair, je verrai Dieu ». Comment, à partir de ce monde matériel, on peut parvenir à retrouver, à dévoiler l'essence divine dans ce monde? C'est un peu le sujet du discours chassidique du Rabbi Rachab, dans lequel il est dit, ou plutôt le discours chassidique qui est basé sur le verset du prophète Yéhézkiel, dans lequel il est dit « Et tu sauras aujourd'hui et mettras sur ton cœur que l'Éternel, lui, est notre Dieu, dans les cieux en haut et sur terre, ici-bas, il n'y a rien d'autre ». En fait, dans son discours chassidique, le Rabbi Rachab se base sur la prière que l'on dit le soir à la fin du jour de Yom Kippour, et quand on prononce à voix haute et quand on dit « Avaye wa Elohim ». Avaye wa Elohim, Avaye, ça désigne la lumière illimitée de Dieu, et Elohim, ça désigne l'attribut de Gvura, la restriction, le Tzimtzum, le fait que l'Éternel, il va opérer un changement, il va restreindre sa lumière illimitée afin qu'elle s'habille dans un monde qui est justement limité. Donc c'est le sens de Havaye, il est relatif au dévoilement, et le sens d'Elohim à la restriction, au Tzimtzum. Et pourtant, le Rabbi Rachab, il va expliquer que Havaye ou Elohim. C'est-à-dire que on doit comprendre que, comme une hache dans les mains d'un bûcheron, elle lui permet de couper des arbres afin de bâtir une maison, de la même façon, la hache, elle évoque le nom d'Elohim, et le bûcheron, il représente le nom d'Avayé. C'est-à-dire que Dieu, il va créer les mondes à partir, il va se servir du nom d'Elohim au moyen du nom d'Elohim, comme qui est comparé ici à la hache, mais l'essentiel, c'est le bûcheron, c'est lui qui agit, c'est la lumière d'Avayé. C'est la lumière d'Avayé qui est à l'origine de la création des mondes et de tout ce qu'ils contiennent. Maintenant, le Rabbi Rachab, il vient donner un exemple pour comprendre un peu le sujet, l'exemple du Rav et du Talmid, le maître et l'élève. De la même façon que Dieu, il ne peut pas créer un monde à partir de sa lumière, uniquement à partir de la lumière d'Avayé, parce qu'elle est illimitée, et que les mondes peuvent recevoir seulement un reflet de sa lumière infinie, alors le Rav, pour enseigner à son élève, il va aussi opérer un Tzimtzum. Il va faire en sorte que l'élève puisse comprendre son enseignement, parce que le Rav ne peut pas enseigner à son élève les choses telles qu'elles sont dans son esprit. Il est obligé de faire un Tzimtzum. Il est obligé de réduire son Sechel, son intellect, en un exemple, par exemple, ou en une histoire, une petite histoire qu'il va raconter à son élève. Et ce Tzimtzum, ça correspond à la réduction, à cette réduction, au fait que le Rav, il va mettre à la portée de l'élève quelque chose que l'élève peut comprendre. De la même façon que l'Éternel, il met à la portée de ce monde une lumière que le monde peut recevoir. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça le point peut-être essentiel du discours du Rabbi Rachab, c'est de dire que malgré tout, dans cet exemple-là, qui est l'expression de la limite, finalement, parce que c'est juste une histoire, ou un vêtement, un petit levouche, dans lequel va s'habiller le concept divin que le Rav va enseigner à son élève, malgré tout, à partir de cet exemple matériel, de cette histoire, l'élève, il peut retourner, il peut retrouver l'essence du Rav, l'essence du concept divin que le Rav lui enseigne. Seulement, et ça c'est une chose qu'on enseigne, que les sages nous ont enseigné dans la Torah, il faut 40 ans à l'élève pour comprendre avec clarté l'enseignement qu'il a reçu 40 ans auparavant. Donc ces 40 années, évidemment, elles représentent les efforts que l'élève il peut accomplir, mais c'est ça qui s'accorde précisément à la déclaration des sages selon laquelle « De ma chair, je verrai Dieu ». C'est-à-dire de cet exemple limité, « Je verrai Dieu », je retrouverai l'essence divine qui se cache dans l'histoire que le Rav m'a racontée, où je retrouverai l'essence divine à partir de ce monde matériel dans lequel je vis. Et comment je découvre l'essence divine? Par le travail, justement. Par le travail du Talmid, par le travail du Chassid, par le fait qu'il va travailler dans les limites de ce monde, alors il va parvenir à dévoiler l'essence divine dans ce monde, parce que c'est la mission de chaque juif, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc ce monde-là, il est comparé à l'exemple, l'exemple du Rav. L'exemple du Rav, il contient en lui toute la substance, tout ce qui va permettre à l'élève d'approfondir et de remonter vers le haut pour découvrir, pour s'imprégner de l'essence de la Torah qui se cache dans les enseignements du Rav, bien qu'ils soient, comme on l'a dit, de simples exemples ou de simples petites histoires. C'est ça un peu la définition de ma chère, je verrai Dieu. À partir de ce monde matériel, à partir de cet exemple-là qui est matériel et qui semble petit, qui ne semble pas contenir quelque chose de très très profond, malgré tout, c'est précisément par l'exemple que je verrai Dieu. Alors on pourrait illustrer cet enseignement du Rabbi Rachav à partir d'une histoire de Rachi. On raconte que Rachi, il était en voyage en Espagne et il a été reçu par un hôte et son épouse. Et la femme de l'hôte en question, elle a accusé Rachi, elle est allée se plaindre à son mari en lui disant que Rachi, il avait volé une robe qui était de grande valeur et qui lui appartenait. Alors l'hôte est allé voir Rachi, il lui a demandé des comptes, il a demandé de rendre la robe qu'il soupçonnait d'avoir volée. Et Rachi, il n'a pas voulu se justifier plus que ça, qu'est-ce qu'il a préféré payer le prix de la robe et partir. Seulement avant de partir, il a écrit sur la porte de la maison de son hôte, il a marqué Shlomo, Shilma, Silma, Shlema. Il a marqué ces quatre inscriptions et ça voulait dire Shlomo. Donc c'est Rachi, qui s'appelle Shlomo Ben Yitzhak. Shilma, il a payé. Simla, une robe. Et Simla, ce sont les mêmes lettres que les lettres du mot Shlomo. Shlema, au prix fort. Donc ça voulait dire que Rachi a payé la robe au prix fort. Maintenant, le maître de maison, quand il a vu ces inscriptions sur sa porte, il a compris son erreur. Il a compris qu'une personne aussi érudite, qui était aussi raffiné pour écrire ces quatre inscriptions, elle ne pouvait pas avoir commis un acte aussi bas. Et alors il a couru après Rachi, il lui a demandé des excuses, surtout que juste un peu après que Rachi soit parti de la maison, la femme avait retrouvé sa robe. Alors il s'est confondu en excuses et l'histoire s'arrête là. Maintenant on pourrait adapter cette histoire à cet enseignement du Rabbi Rachav qu'on vient de dire, puisque on pourrait expliquer les choses ainsi. Shlomo, il représente le Rav. Et en plus, on sait que Shlomo Ameler, il avait une capacité d'enseigner qui était supérieure aux hommes, puisqu'on sait qu'il employait des exemples. On dit qu'il employait même 3000 exemples. Il était capable de donner 3000 exemples pour enseigner un enseignement. Et même on voit, même à travers le Shir HaShirim, on voit que le Shir HaShirim, c'est lui-même un exemple qui dans lequel Shlomo il compare l'Éternel à un Khatan et l'Assemblée d'Israël à une Kala. Donc on voit que Shlomo, même le livre de Michelet aussi, il représente le Rav, l'enseignement que va délivrer le Rav. Le mot Shilma, le fait qu'il a payé, comme Rachi veut dire que Rachi il a payé le prix de la robe au prix fort. Le mot Shilma, donc le fait de payer, on peut se remettre à l'enseignement du Tanya, sans remettre à l'enseignement du Tanya, dans lequel il est expliqué que le fait de donner de la tzedaka, c'est donner de la vitalité. C'est-à-dire que quand on donne de l'argent à un pauvre, on lui insuffle une vitalité nouvelle. Le fait de posséder de l'argent, ça va le réveiller. C'est pour ça même qu'on dit que quand un homme il travaille et il gagne de l'argent, cet argent qu'il a gagné, c'est un peu de son sang qu'il va donner. C'est puisque c'est la vitalité même de cet homme-là, cet argent qu'il a gagné, il s'est investi pour l'acquérir. Et donc, quand on dit Shilma qu'il a payé, on peut parler ici de cette capacité d'un juif de faire don de lui-même. C'est la capacité de Messirut Nefesh. C'est la capacité de faire don de soi-même pour l'autre, le fait de lui donner de la tzedaka. Donc, c'est relatif à cette capacité du chassid de faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la venue du Mashiach. Quand on dit le mot Shilma, la robe, Donc Rachi qui vient de dire ici qu'il a payé le prix de la robe au prix fort. La robe ici, ça désigne le vêtement. Et le vêtement, évidemment, c'est l'exemple que le Rav va donner à son élève. Il va habiller dans son exemple l'essence même de son enseignement. La Torah elle-même est comparée à un vêtement. Puisqu'on dit que dans la Torah s'habille la sagesse de Dieu. Et la Torah Chadasha, la Torah que le Mashiach va dévoiler au moment de sa venue, elle-même c'est le vêtement dans lequel s'habille l'essence divine, c'est le dévoilement de l'essence divine. Et puis le dernier mot, enfin, Shlema, il désigne la Shlemout, la perfection, et aussi la Geoula, Geoula Shlema, la délivrance finale, la perfection même du dévoilement divin dans ce monde. Et si on assemble maintenant ces quatre mots, on peut comprendre que l'idée qui est donnée ici, c'est qu'un juif, quand il fait don de lui-même pour s'attacher à comprendre l'enseignement de son rave, donc l'attachement à l'exemple, l'exemple à lui c'est Simla, et le rave lui-même c'est Shlomo, alors il parvient à la Shlema, il parvient à la Shlemout, il parvient à la délivrance finale. Et pour ça, il doit agir avec toutes les forces de son âme, c'est allusionné par le mot Shilma, qu'il a payé, c'est-à-dire de faire vraiment don de lui-même. Donc ces quatre inscriptions que Rashi il a écrites sur la porte de son hôte, elles font allusion donc à ces enseignements du Rabbi qui répète inlassablement qu'un juif il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la venue du Mashiach. Et l'idée ici, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'attacher à l'exemple que nous donne le Rav. C'est-à-dire que, pour réciter cette histoire du Baal Shem Tov, on sait que quand le Maguide de Mezrich est allé voir le Baal Shem Tov pour la première fois, le Baal Shem Tov lui a raconté des histoires. Et le Maguide de Mezrich n'a pas su voir dans ces histoires l'enseignement profond du Baal Shem Tov, et il a préféré quitter le Baal Shem Tov. Il était prêt, même il était sur le point, il était au bord de près de sa gala, il était prêt à repartir de l'endroit d'où il venait. Quand un des serviteurs du Baal Shem Tov est venu le voir, il lui a demandé de revenir, que le Baal Shem Tov voulait lui dire autre chose. Et le Maguide hésitait à revenir, puisqu'il s'est dit, qu'est-ce que je peux apprendre vraiment de cet homme? Qu'est-ce qu'il m'a raconté des histoires? Qu'est-ce que ça, je sais déjà tout ce qu'il m'a appris aujourd'hui. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas la profondeur, je ne vois pas un argument capable de me retenir ici. Malgré tout, le Maguide était retourné voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, lui a demandé de commenter quelques lignes du Zohar. Et le Maguide a répondu à sa demande, et puis le Baal Shem Tov lui a dit que ce n'était pas suffisant. Il lui a dit, donne-moi quelque chose de plus fort que ce que tu viens de dire. Alors le Maguide s'est vertué à donner encore un enseignement, et puis un autre, mais ça ne convainquait pas le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov a pris le livre du Zohar et a commencé à lire dans le livre du Zohar. Et puis il a dit, voilà, là il y a écrit l'ange Michaël, et à ce moment-là, au moment où il a dit l'ange Michaël, il y a une colonne de feu qui est descendue dans le bureau du Baal Shem Tov, et l'ange Michaël s'est dévoilé à eux. Puis quand il a lu le mot de l'ange Gabriel, au même moment, une colonne de feu est apparue dans le bureau du Baal Shem Tov, et l'ange Gabriel s'est dévoilé devant eux. Alors là, le Maguide de Mezrich était saisi, et il a compris qu'il avait affaire à un homme d'une grande, grande importance, et il est donc resté chez le Baal Shem Tov. C'est ce qui l'a convaincu. Mais on voit dans cette histoire que les petites histoires que lui a racontées le Baal Shem Tov au début de leur entrevue n'a pas convaincu le Maguide. Et pourtant, c'est précisément dans ces petites histoires, dans ces exemples que nous donne un maître de la Chassidoute ou un maître de la Torah, on doit comprendre qu'à partir de ces exemples, de ma chair, je verrai Dieu, je peux remonter jusqu'à l'essence divine. Alors ce principe-là, il est enseigné dans la Chassidoute, c'est la différence entre Or et Achar et Or Choser. Or et Achar, c'est la lumière qui vient du haut vers le bas, c'est l'exemple que le Rav il donne à son Talmid. Et Or Choser, c'est l'étude que va faire le Talmid, et ça, les sages viennent de dire qu'il faut parfois 40 ans pour que le Talmid parvienne à comprendre profondément l'exemple qui lui a été donné. Et Or Choser, c'est quand il parvient à retourner vers le haut, vers la racine, vers l'essence de l'enseignement de son Rav. Dans le Dvar Malchut des parachutes précédentes, évidemment, le Rabbi s'est attaché à donner des enseignements qui sont relatifs au conte de l'Homère. Le conte de l'Homère, c'est donc le raffinement de l'âme animale. Encore une fois, on peut voir ici une allusion à l'exemple, l'exemple qui est matériel. De même que l'âme animale, elle est en quelque sorte matérielle, puisque c'est elle qui pousse l'homme à regarder vers la terre, vers le bas, à assouvir des désirs qui sont purement matériels. Et le raffinement de l'âme matérielle pendant les jours du conte de l'Homère, c'est justement ce travail du bas vers le haut, le fait de raffiner tous ces désirs matériels de manière à retourner, à les détourner plutôt vers le côté de la sainteté. Et donc c'est toujours la même idée qui revient, puisque la Torah elle-même, elle nous enseigne, et particulièrement la partie profonde de la Torah, elle nous enseigne à faire ce travail d'unir l'esprit avec la matière. Ça, c'était déjà dans le livre de Bereshit, même dans les enseignements du Dvar Malchut ou du livre de Bereshit, le rabbi l'expliquait que le Shem Ban, qui désigne donc la matière, il doit être uni au Shem Ma, qui désigne le divin. Donc c'est le mariage de Rivka et de Yitzra qui représente l'union entre le Shem Ban et le Shem Ma, l'union entre la matière et l'esprit, le fait de s'attacher à la matière pour retrouver l'esprit, le fait de s'attacher à l'exemple que nous donne le Rav pour retrouver l'essence même du Rav. Donc cette idée-là, cette union entre la matière et l'esprit, c'est l'union entre le Shem Avayé et le Shem Elohim. C'est le fait de comprendre que quand la lumière d'Avayé brille dans le Shem Elohim, quand on parvient à dévoiler l'union entre le Shem Avayé et le Shem Elohim, alors le monde il apparaît sous une autre forme. Et là, l'idée, elle est exprimée dans le discours du Rabbi Racha par l'histoire d'Avraham, quand Avraham il s'est jeté dans le feu, et que parce qu'il ne voulait pas se séparer de Dieu, il préférait donner sa propre vie, comme on l'a dit avec le mot Shilma, le fait de payer, de donner de sa propre vie, mais de ne pas être séparé de Dieu. Ça, c'est un enseignement qui est donné dans le livre du Tanya, la Koach Mesiro Nefesh, le fait de faire don de sa propre vie, mais de ne jamais, Chas V'Shalom, être séparé de la volonté de Dieu. Ce principe-là, qui est relatif et qui est vraiment l'expression de l'âme juive, on doit comprendre ici quelque chose de vraiment très beau, et c'est l'enseignement du Rabbi Achab. Il nous dit que d'après la nature, d'après le Shem Elohim, un juif, donc on voit même que Avraham, quand il s'est jeté dans le feu, il pensait qu'il allait brûler, Dieu préserve, dans le feu, parce que d'après la nature, d'après le Shem Elohim, le feu il brûle. Le feu il brûle et l'eau elle éteint le feu. Mais quand on s'attache à Dieu de manière profonde, alors on s'élève au-dessus du Shem Elohim, on révèle la lumière du Shem Avayé, et quand on révèle la lumière du Shem Avayé, le feu il ne brûle pas. C'est-à-dire que le monde il apparaît sous une forme qui dépasse la nature. Et c'est pour ça qu'on doit s'attacher à vraiment travailler dans les limites de ce monde, travailler avec le Shem Elohim pour retrouver ce dévoilement du Shem Avayé, pour retrouver le dévoilement de la lumière illimitée, de manière à ce que cette lumière illimitée, elle s'habille dans ce monde matériel et elle change ce monde matériel. Et l'exemple le plus expressif de cette idée-là, c'est l'exemple de l'arche. L'arche, elle possède des mesures, on peut la mesurer, c'est comme la nature, c'est le Shem Elohim, elle s'accorde avec ce monde matériel, puisque c'est un objet matériel. Malgré tout, quand on la place dans le Kodesh HaKodashim, alors elle perd ses mesures, puisque c'est écrit que l'arche, quand elle est déposée dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, elle perdait ses mesures, elle ne prenait pas de place. Alors ça signifie que c'est le dévoilement de la lumière d'Avayé. Quand la lumière d'Avayé, qui est illimitée, elle se dévoile dans les limites de ce monde, dans le Shem Elohim, alors l'arche, elle ne prend plus de place. Et c'est tout l'enseignement du Rabbi du Dvar Malchut, que ce soit la Parasha Bechukotai, que ce soit la Parasha Béar, que ce soit toutes les parachiotes de la Torah, le Rabbi, il vient insister, il vient souligner sans cesse, inlassablement, qu'un juif il doit dévoiler la lumière d'Avayé dans les limites de ce monde. Et aussi, et plus particulièrement, dans les limites de son âme. Puisque quand il dévoile l'essence de l'âme qui représente le dévoilement du Shem Avayé, donc est illimité, dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et ça ça correspond au Shem Elohim, c'est-à-dire à la nature, ce sont les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama. Donc l'âme telle qu'elle s'inscrit, telle qu'elle s'habille dans le monde, comme on l'a dit, comme l'exemple que le Rav y donne au Talmud. Malgré tout, si un juif il est capable de faire ce travail, de s'attacher au divin et de faire face aux épreuves qui lui sont données, alors il va parvenir à ce que l'essence de son âme elle va illuminer la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et donc il va agir au-delà de la nature, il va agir et il va susciter le désir divin de se révéler dans le monde. Il va provoquer le fait de révéler l'essence divine et de faire de ce monde matériel, comme on l'a dit l'exemple, une demeure pour l'essence divine, c'est-à-dire il va retourner, comme on l'a dit, après 40 ans, vers l'essence même de l'enseignement de son Rav. On pourrait finir en expliquant par un petit chidouche, de dire que c'est le fait de partir du machal, de l'exemple, et de retrouver le nimshal. Le nimshal, c'est donc la chose que le Ravi veut nous enseigner. Ça correspond au dévoilement de l'essence divine, ça correspond à la geoula, le nimshal. Qu'est-ce qui nous permet de parvenir du machal au nimshal? Quelle est la différence entre ces deux mots? C'est la lettre Noun. Et la lettre Noun, c'est le jour de Shavuot, puisque pendant ces 49 jours du conte de l'Omer, on travaille sur l'exemple, on travaille sur la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, on travaille sur ce monde avec ses limites, et le jour de Shavuot, à ce moment-là, c'est Dieu qui compte le Homer, c'est Dieu qui dévoile la 50e porte de la connaissance, c'est le don de Shavuot, c'est la lettre Noun. Donc le passage du Machal au Nimshal, le passage, l'union entre le Shem Elohim et le Shem Havaye, c'est s'exprime avec, dans la plus grande clarté, par la lettre Noun, le Noun qui symbolise le jour de Shavuot, la perfection. Comme on sait que les 49 lettres portes de la connaissance ont été données à Moshe, sauf la lettre Noun qui sera donnée au Mashiach et qui sera dévoilée dans la Torah Hadasha du Mashiach, Bezrat Hashem, le Nimshal, Bezrat Hashem, que ce soit le plus vite et le dès à présent avec l'aide de Dieu, et que ces paroles s'accordent avec le désir de chacun de provoquer la délivrance finale dès à présent avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom.